Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque jeudi, Antoine Garapon, ancien juge, s'empare des grands dossiers et des défis de la justice.
Et je reçois ce soir pour discuter Marie Geoffrey-Roustide, qui est sociologue, chercheur à l'INSERM et qui coordonne le programme Sciences sociales, drogue et société à l'EHESS. Bonsoir Marie Geoffrey-Roustide.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, j'ai mentionné que vous êtes sociologue, vous avez aussi une formation en sciences politiques et en santé publique, et vous travaillez sur la question des drogues, et notamment vous avez publié récemment un petit article sur le bilan qu'on pouvait faire des... Alors, comment les appeler les salles de consommation, certains parlent de salles de joute, mais ce ne sont pas des salles de joute, justement.
Non, justement, les termes sont importants. En fait, ce sont des salles de consommation à moindre risque, en fait, qui ont été mises en place là récemment en France, 30 ans après l'expérience suisse. Donc en fait, les deux premières salles de consommation à moindre risque ont été installées à Paris et à Strasbourg. Mais ce qui est notable, c'est qu'en fait, elles existaient déjà dans une... Il y avait une centaine de salles qui existaient dans une dizaine de pays.
Notamment, elles ont commencé à Berne, c'est-à-dire à 5 km de la France.
Exactement, tout à côté de la frontière franco-suisse, parce que les Suisses ont toujours été très en avance sur les politiques de réduction des risques avec une approche beaucoup plus pragmatique que celle de la France.
Alors, les Suisses, mais pas n'importe quelle Suisse, parce qu'à vous lire, on se rend compte que c'est plutôt la Suisse alémanique, plus pragmatique, qui a mis en place ces salles de consommation. Mais par exemple, Lausanne a mis beaucoup de temps à ouvrir la sienne.
Vous avez raison. Donc, il y a Berne, il y a Zurich, mais il y a également Genève qui a mis en place une salle de consommation qui s'appelle Quai 9. Lausanne a longtemps résisté, mais il est question actuellement, il y a un mouvement qui se dessine à Lausanne et qui irait vers l'ouverture d'une salle.
Parce qu'il y a une résistance sociale, et on va voir que c'est une question majeure pour notre débat ce soir de réflexion sur notre politique des drogues. Il y a un problème social, il y a un problème de représentation. Est-ce que nos représentations à nous autres en France, en 2017, sont-elles les bonnes à propos de la drogue, Marie Geoffrey-Roustide?
Alors, je pense que en France, en tout cas, les représentations sociales liées aux drogues, elles sont dictées avant tout par la morale et elles subissent également l'impact de la politique répressive française, en fait, qui est une des politiques les plus répressives en Europe. Et donc, en fait, le fait qu'on ait une politique très répressive donne lieu à un imaginaire, en fait, lié aux drogues qui est extrêmement stigmatisé, qui est très marqué par le registre de l'émotion et qui empêche de penser cette question-là de manière raisonnable, en ayant en tête que la question des drogues est avant tout une question sociale et une question de santé publique.
Et comment vous expliquez ça, Marie Geoffrey-Roustide, cette différence de perception, ce retard, on peut dire le mot, ce retard de la France en matière de drogue, qu'on va voir dans beaucoup, beaucoup de domaines, à commencer par ces salles de consommation?
Alors, le retard, on peut l'expliquer de plusieurs manières. La première grande explication, c'est la loi. Donc, en fait, l'usage de drogue est régi en France par la loi du 31 décembre 1970, qui n'a pas beaucoup bougé depuis les années 70.
C'est incroyable, depuis 40 ans, 50 ans presque.
Oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de résistance parce qu'en fait, l'usage de drogue, cette loi a été votée dans un contexte très particulier qui est le contexte post-68. Et en fait, les législateurs à l'époque avaient comme idée, en réprimant l'usage de drogue, de réprimer et de criminaliser également une autre population qui était celle des contestataires de mai 1968, comme l'ont montré les travaux donc de Patrice Pinel et de Marcos Zafiropoulos à l'époque. Et donc, en fait, à travers cette criminalisation de l'usage, on criminalise également un style de vie, un mode de pensée. Et donc, en la France, n'ayant pas bougé sur cette question de loi, a beaucoup de mal à bouger également sur la question de la prise en charge, parce que le fait que l'usage de drogue soit interdit en France empêche tout un tas d'avancées de santé publique. Alors, comment expliquer cette différence entre la Suisse et la France, ou entre l'Allemagne et la France ?
C'est une question de pragmatisme.
Exactement, c'est une question de pragmatisme. Alors, la Suisse, également un autre élément très important au-delà de la question de la loi, c'est qu'en Suisse, les décisions se font au niveau local. Et donc, le fait que les décisions se fassent au niveau local, qu'il y ait une tradition des référendums populaires, fait que la population se sent également associée aux décisions publiques. Et donc, dans le cadre de ces référendums, il y a également des tentatives d'explication sur ce que sont ces salles, par exemple, ces dispositifs. Et on voit en France également que quand on explique très clairement à la population...
Et ça, c'est les élus locaux qui peuvent faire ça.
Alors, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en France, ces salles ont été mises en place également grâce au volontarisme du maire du 10e, Rémi Féraud, par exemple, qui a organisé une concertation locale avec les riverains et qui, progressivement, a fait accepter cette idée. Mais il faut effectivement un engagement local, alors que, effectivement, la France a un mode d'organisation qui est beaucoup plus pyramidal que ce qu'on peut observer.
Ça est centralisé. Et quel est l'intérêt de ces salles de consommation ? Pourquoi une salle de consommation ? Pour les toxicomanes de la rue, pour ceux qui se droguent dans la rue ?
Alors, vous avez raison. En fait, ces salles de consommation, elles ne s'adressent pas à l'ensemble des usagers. Hein. Il existe une grande variété des usages, de l'usage du cannabis à la cocaïne, au crack ou à l'héroïne, ou à l'usage des médicaments. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et en fait, ces salles, elles s'adressent avant tout à un public d'injecteurs, c'est-à-dire d'usagers de drogue qui utilisent des drogues par voie injectable. Et ces injecteurs, en fait, qui sont pour une partie d'entre eux dans des situations très précaires, peuvent être amenés, quand ils n'ont pas de logement, à injecter dans la rue, dans l'espace public. Et ces injections dans l'espace public, elles constituent à la fois un problème pour les usagers de drogue qui prennent des risques quand ils injectent dans la rue, des risques sanitaires et puis
oui,
également...
parce que le matériel est par terre, il n'y a aucune hygiène. Et...
Tout à fait. Donc le matériel est par terre, ils peuvent avoir des problèmes de santé liés effectivement à l'insalubrité des conditions d'injection, mais également ils peuvent être repérés par la police. Donc en fait, ils injectent rapidement, ils partagent plus facilement le matériel d'injection. Donc déjà, ces salles, elles ont comme objectif de permettre à ces usagers d'injecter dans des conditions sanitaires, mais elles ont également un impact pour la tranquillité publique, puisque les injections dans l'espace public sont des images qui peuvent heurter les riverains. Et donc, quand ces injections ne se font plus dans l'espace public, elles se font également à l'abri des regards. Donc, elles améliorent le sentiment de tranquillité publique dans le quartier.
Et pourtant, quand même, on voit aussi cette résistance, c'est-à-dire « not in my backyard », je veux bien que ça se fasse, mais pas à côté, pas en bas de chez moi.
Alors, ça, c'est des résistances qu'on a observées à peu près partout, dans toutes les salles qui ont été mises en place. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fil du temps, à partir du moment... En tout cas, dans le travail là, que je suis en train de mener, où je fais des entretiens avec les riverains, ce qu'on peut voir, c'est qu'avant que les salles soient mises en place, il y a un certain nombre de craintes, mais qui peuvent tout à fait s'entendre. La crainte qu'il y ait un afflux d'usagers, que les usagers de tout Paris viennent dans cette salle de consommation, la crainte d'un accroissement du trafic, de l'insécurité. Et à partir du moment où la loi a été votée, qui autorise la mise en place de ces salles, on a pu observer chez une partie des riverains qui pouvaient s'y opposer une meilleure acceptation, puisque les choses étaient maintenant acceptées d'un point de vue légal. Et puis, le deuxième élément, c'est que la salle est mise en place là maintenant depuis quelques mois. Et il y a les usagers qui fréquentaient le quartier et qui injectaient dans la rue vont dans la salle, mais il n'y a pas un afflux d'usagers qui viennent de tout Paris.
Et donc, ça a plutôt réduit la consommation dans la rue, alors ?
Ah oui, ça, en tout cas, le premier résultat majeur de cette salle, c'est qu'il y a plusieurs milliers d'injections qui ont été réalisées dans la salle depuis l'ouverture et qui n'ont pas été réalisées dans l'espace public.
Alors, on parle des usages et vous nous parliez du contexte post-68, 1970, où en fait, c'est une loi anti-jeune, une loi anti-casseur, anti-libertaire. Mais on a quand même la consommation, les usages ont considérablement évolué depuis près de 50 ans, Marie-Geoffrey Roucide.
Oui, les usages, vous avez raison, Antoine Garapon, les usages ont beaucoup évolué. Dans les années 60-70, on avait des usages plutôt de drogues psychédéliques, ensuite suivis par l'héroïne.
Avec tout un imaginaire qu'elle est avec, d'ailleurs.
Avec un imaginaire social, une recherche de sensations, un imaginaire cinématographique, et puis également des produits qui pouvaient être consommés par aussi des usagers insérés. Et ensuite, c'est avec la période de la crise économique où l'imaginaire des drogues a été beaucoup plus associé à la question des banlieues et donc ce qui donne lieu aussi à une répression plus importante. C'est-à-dire que la répression, elle s'applique aussi...
Le bouc émissaire a changé, mais il y en a toujours un.
Voilà, pas de la même manière aux catégories d'usagers. Alors, les grandes évolutions actuelles, elles sont liées principalement à la multiplication des drogues de synthèse. Et donc, en fait, on a aujourd'hui une multiplication des possibilités, des drogues qui s'achètent également sur Internet.
Sur le Darknet.
Qui s'achètent, voilà, sur le Darknet. Donc, des modes d'approvisionnement des drogues qui ont changé. Et puis, des produits qui peuvent être beaucoup plus dosés, par exemple, qu'auparavant.
Ce qui est dangereux.
Alors, effectivement, il y a des usages de drogues qui sont régulés, mais il y a des usages de drogues qui ne sont pas régulés, et l'usage de drogues peut constituer une pratique dangereuse, puisque un des dangers principaux des drogues, c'est la question de l'overdose. C'est-à-dire que certains produits, par exemple, comme l'héroïne, si vous en consommez des doses trop importantes, vous pouvez en mourir. Il y a la question de l'overdose. Alors, l'autre dangerosité liée aux drogues, et qui est liée à l'interdit également et à la répression, c'est que quand on achète des produits sur le marché noir, on ne sait pas ce qu'ils contiennent. Contrairement aux médicaments, par exemple.
Il n'y a aucune sécurité.
Il n'y a aucune sécurité. Et parfois, des usagers vont acheter, par exemple, de l'héroïne et s'attendre à un certain type d'effet. Et en fait, ils achètent un tout autre produit et ils ont des effets qui sont des effets qui n'étaient pas prévus et qui peuvent les perturber.
C'est ça, bien sûr. Et alors, vous citez un chiffre absolument incroyable que vous allez nous expliquer, dû à la vague massive d'opioïdes légaux aux États-Unis, qui a causé un nombre de décès par overdose considérable.
Alors, vous avez raison sur cette question-là. En fait, c'est une question sociétale d'ampleur. Hein. Barack Obama, d'ailleurs, a pris position sur cette question-là et en a fait s'est exprimé dans les médias et a voulu mettre en place des mesures de santé publique importantes pour lutter contre cette épidémie d'opioïdes. Donc on estime à peu près à 300 000 overdoses ces cinq dernières années.
Mort,
300 000 décès par overdose ces cinq dernières années aux États-Unis qui seraient liés à la consommation d'opiacés, et une majorité d'entre eux sont liés à des opioïdes légaux.
Alors, c'est-à-dire, pour nos auditeurs, opioïdes légaux,
par exemple, les antidouleurs qui peuvent être prescrits par le médecin généraliste en cas de mal de dos.
Un détournement du médicament, en quelque sorte.
Alors, pas obligatoirement un détournement. C'est-à-dire qu'au départ, le médicament peut être pris pour un véritable mal de dos ou pour un mal-être, mais ensuite, il y a une dépendance qui se met en place, et donc les usagers... les usagers qui consomment ces médicaments antidouleurs ou ces opioïdes pour d'autres raisons vont être amenés à augmenter les doses et à pouvoir mourir d'une overdose. Alors, pourquoi cette épidémie d'opioïdes aux États-Unis ? D'abord, en raison des stratégies marketing des laboratoires. Également, en raison de la crise économique.
C'est quand même assez grave, je vous interromps, c'est quand même assez grave que des laboratoires qui ont pignon sur rue, qui sont des entreprises contrôlées, régulées, incroyablement régulées, hier, s'agissant des pharma et du médicament, puissent avoir un rôle, une participation pour une épidémie aussi grave et aussi mortelle.
Alors, on ne peut pas dire qu'ils emportent la responsabilité unique.
Bien sûr que non, mais qu'ils puissent participer, c'est un peu choquant.
Oui, mais on a pu le voir dans d'autres scandales sanitaires. Hein. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que la principale cause de cette épidémie d'opioïdes, elle est liée à l'évolution de sociétés contemporaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle douleur, n'importe quel mal-être
doit avoir sa solution.
Et sa solution, c'est une réponse médicamenteuse. Et donc, les laboratoires l'ont bien compris, les prescripteurs aussi, hein, c'est-à-dire qu'un patient qui vient chez le médecin s'attend également à ce qu'on lui prescrive un médicament. Donc en fait, la responsabilité, elle est également partagée. Et puis, il y a également cette crise économique aux États-Unis qui a touché tout particulièrement les zones rurales. Et donc, ces opioïdes peuvent également soulager le mal-être de certains individus.
Alors, on reviendra sur cette question du mal-être et cette question du solutionnisme médicamenteux, on pourrait dire, qui est quand même une spécialité française. Marie-Geoffrey Rostide, en France aussi, on a une très très grande consommation d'antidépresseurs et de médicaments qui peuvent un jour être détournés ou installer le patient dans une sorte de chronicité qui devient toxicomaniaque.
Ah bah vous, Antoine Garapon, vous avez raison. raison hein, sur ce point-là, tout à fait. C'est-à-dire que la France se caractérise par une consommation d'antidépresseurs extrêmement importante, mais également chez des populations dont on parle peu et qu'on imagine, enfin, qui ne sont pas associées à l'imaginaire du toxicomane. Oui. C'est chez les personnes âgées, par exemple. En fait, les personnes âgées en France consomment énormément de médicaments antidépresseurs, d'anxiolytiques, de benzodiazépines. Et dans l'imaginaire social, elles ne sont pas perçues comme le consommateur de crack ou d'héroïne. Et pourtant, elles peuvent être dans les mêmes situations de dépendance ou d'assuétude vis-à-vis des produits.
Vous avez une expression qui a retenu mon attention, parce qu'elle est assez énigmatique, Marie-Geoffrey Rousty. Vous parlez d'addiction sans produit. C'est quoi l'addiction sans produit ?
Alors, on évoquait tout à l'heure les évolutions en termes de consommation par rapport aux années 60-70. Alors, et donc, ces addictions sans produit en font partie. C'est-à-dire qu'on observe aujourd'hui, avec la multiplication des écrans, par exemple, une addiction, des conduites, dérégulées vis-à-vis de certains comportements qui peuvent être à la fois donc, des écrans, comme on vient de l'évoquer, mais également des addictions à d'autres types de comportements. Au jeu, au travail, au sexe, on a pu le voir dans différentes affaires.
Ce sont de véritables addictions.
Alors justement, il y a une controverse dans le champ de la psychiatrie sur cette question-là. Pour le moment, l'addiction au jeu est considérée comme une véritable addiction et rentre dans le cadre de la définition du DSM-4, donc dans les catégories nosographiques de l'addiction. Oui. Mais en revanche, pour les autres types de comportements qu'on vient d'évoquer, et même pour l'addiction, la question de l'addiction aux écrans, c'est une terminologie qu'on utilise plutôt dans le
métaphorique.
Métaphorique et qui est utilisée dans le sens commun. Mais du point de vue de la psychiatrie, qui pour le moment de comportement addictif vis-à-vis de ces objets technologiques, mais il y a une controverse pour savoir est-ce que c'est une véritable addiction ou pas.
Mais c'est curieux parce que vous notez que les jeunes, parce qu'ils sont plus solitaires face à leur écran, ont tendance à moins consommer de drogue de cette manière relationnelle et transitoire qui caractérise une sorte de quête initiatique, on pourrait dire, de l'adolescence. Marie-Geoffrey Rousty.
Alors, cette question est intéressante. Hein. C'est une idée qui est défendue par Ivana Obradovic et François Beck dans le numéro d'Esprit. On sait, les chiffres le montrent, que la France a un niveau extrêmement élevé en matière de cannabis chez les jeunes. Et donc, pendant très longtemps, on s'est interrogé donc justement sur l'efficacité de la politique répressive sur la consommation de cannabis, puisque on fait partie des champions d'Europe sur cette question-là. Et ce qui est intéressant dans l'article de François Beck et d'Ivana Obradovic, c'est qu'ils mettent en évidence qu'actuellement, depuis quelques années, depuis très peu de temps, avoir une légère diminution de la consommation chez les jeunes à l'âge de 17 ans, qui sont quand même pour la moitié d'entre eux qui ont expérimenté le cannabis. Et une des hypothèses qu'ils mettent en avant, c'est un passage d'une addiction à une autre avec effectivement le temps passé sur les écrans fait qu'on a moins de temps pour consommer du cannabis. Et puis, il y a des phénomènes de ritualisation qui peuvent évoluer. Alors, ce qui est intéressant également sur la question des produits et des passages d'une drogue à une autre, c'est la question de la dénormalisation.
C'est-à-dire que
c'est très intéressant, par exemple, sur la question du tabac. Ce qu'on observe aujourd'hui chez les jeunes, c'est une tendance à consommer de manière importante des drogues. Et il y a un produit pour lequel on observe une diminution chez les adolescents, c'est la cigarette. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que les adolescents d'aujourd'hui n'ont pas connu leurs parents ou fumer dans des espaces...
Ils ne voient plus de films.
Ils ne voient plus de films où les gens fument. Ils sont dans des univers où les gens n'ont plus de cigarettes à la main, des univers qui sont... pour lesquels la norme est la norme du sans-tabac, de l'abstinence tabagique. Et en fait, cette dénormalisation des comportements fait qu'ils ont intégré que le tabac pouvait être un problème, et un problème de santé publique, pas uniquement un interdit légal, mais un problème de santé publique. Et on observe une petite diminution de la consommation du tabac chez les jeunes.
Est-ce qu'on ne pourrait pas y arriver aussi pour la drogue ? Est-ce qu'on pourrait arriver à un changement ? On va y revenir, parce que sur l'échec terrible quand même de la politique française, thèse terrible dont on va faire le détail dans un instant, mais avant, est-ce que ça ne serait pas une piste de réflexion de se dire, ben, on va dénormaliser, c'est paradoxal, la drogue, c'est-à-dire lui retirer ce caractère de paradis artificiel, attractif, subversif, et qui a le parfum de l'interdit?
Alors, ce qu'il est important de rappeler, c'est l'idée que nous défendons avec Jean-Maxence Granier, qui est co-auteur de cette, enfin, qui a coordonné avec moi ce numéro d'Esprit, c'est qu'en fait, déjà, il y a une diversité des usages. Ça, c'est la première idée quand
des
même
usages,
qui est importante.
Des usages, pas des voilà. produits.
Non, mais une diversité des usages et une diversité des rapports aux produits. Ah. Donc, tous les usages de drogue ne sont pas des usages dangereux. Il y a un besoin anthropologique de ressentir du plaisir, d'expérimenter
éternel,
des sensations.
Éternel, qui a toujours existé.
Éternel, qui a toujours existé, qui existe par exemple avec l'alcool et qui ne semble pas poser de problème particulier à la plupart d'entre nous, qui peut exister également avec le cannabis, avec l'héroïne. La question, donc en fait ça c'est la première idée à rappeler, c'est-à-dire que tous les usages ne sont pas dérégulés et tous les usages ne posent pas problème.
Il n'y a pas une norme.
Il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas un. Drogue ne veut pas dire danger et problème, même si c'est ce que le pouvoir politique essaye de nous faire croire la plupart du temps à travers la question de l'interdit et de la répression. En revanche, l'autre idée que nous cherchons à défendre, c'est-à-dire que nous pensons qu'il est important, pour avoir une politique qui soit efficace sur ces usages dérégulés, de ne pas se centrer uniquement sur la question de l'interdit légal et de la répression, mais d'essayer justement de fonder une politique sur des normes sociales qui prennent en compte les savoirs, l'expérience des usagers et qui ne se centrent pas uniquement sur cette figure de l'addict qui est drogue égale problème.
Donc un changement de représentation sociale, mais c'est en même temps ce qu'il y a de plus en plus difficile à changer. On ne change pas la culture par des décrets.
Justement, c'est pour ça que vous avez raison là-dessus, Antoine Garapon. C'est-à-dire que ce n'est pas la loi qui va permettre de faire évoluer ces représentations sociales dans le bon sens.
Choisi de nous faire entendre une musique, une chanson de David Bowie, Heroes. Heroes comme héroïne, Marie-Geoffrey Rousseline.
Alors ça peut faire effectivement penser à la question de l'héroïne. Et puis David Bowie est quand même une incarnation de cette génération qui a traversé l'usage de produits en ayant à certains moments des usages dérégulés, certainement des drogues, mais tout en maintenant une insertion sociale et une créativité.
Et laquelle, bien sûr. Mais alors, vous disiez, il y a différents produits, il y a différents usages du produit, il y a différents publics aussi du produit. C'est très important socialement parce que finalement, tout le monde n'est pas égal devant la drogue.
Alors, tout le monde n'est pas égal devant la drogue.
Je veux dire, socialement, en raison des déterminismes sociaux. C'est-à-dire que on voit bien qu'aux États-Unis, il y a la question raciale, c'est invité dans le débat. Ô combien terrible, d'ailleurs, parce qu'il y a eu cette pénalisation du crack qui était utilisée principalement par les Afro-Américains. Et on voit que la question sociale, en France aussi, s'invite dans le débat.
Oui, vous avez... Je partage votre point de vue sur cette question. C'est-à-dire que en fait, la question des, ce qui est intéressant sur la question des drogues, c'est qu'elle est vraiment un révélateur du social.
Bien sûr.
Et donc, d'abord, il y a autant d'usages il y a des usagers qui ont des caractéristiques différentes. Il peut y avoir des usages régulés de la cocaïne ou de l'héroïne, même s'ils sont plus rares.
C'est-à-dire régulés, donc inoffensifs, donc socialement et médicalement inoffensifs.
Alors, je n'irai pas jusqu'à dire médicalement inoffensif, puisque suivant les doses que vous prenez, vous prenez des risques. Hein, mais c'est la même chose pour la nourriture. C'est-à-dire que si on mange trop gras, on prend aussi des risques pour sa santé. Donc en fait, ils sont surtout... Quand on peut dire que c'est des usages qui sont régulés, c'est-à-dire qu'ils ne posent pas de problème particulier à l'individu qui les consomme parce que il n'est pas amené à organiser tout son quotidien autour de la recherche du produit, qui est ce qu'on appelle la suétude ou la question de la dépendance.
La suétude, c'est-à-dire ?
Alors, la suétude, on a choisi d'utiliser ce terme avec Jean-Maxence Granier parce que la notion d'addiction et qui est utilisé d'habitude dans le vocabulaire commun, est très marqué par la médicalisation. La notion d'assuétude, pour nous, elle renvoie plutôt à l'expérience du produit. Donc la notion d'assuétude, en fait, c'est une dérégulation des émotions et une dérégulation du plaisir lié à une substance. C'est-à-dire, l'assuétude, c'est quand vous... tout votre quotidien est organisé autour de la recherche du produit et quand vous commencer à consommer des produits, non pas uniquement pour éprouver du plaisir au sens de la jouissance, mais pour soulager le manque, c'est-à-dire la phase négative du plaisir.
Et on pourrait dire que le produit prend toute votre vie, quoi. Toute votre vie est organisée autour du produit.
Alors, le produit prend toute la place, à la fois dans l'organisation du quotidien, le moment, l'usager va déterminer les moments où il va consommer, mais également l'argent, chercher de l'argent pour acheter ses produits. Et puis, au bout d'un moment, il prend aussi toute la place et il a un impact négatif sur les sociabilités, sur la relation affective et relationnelle.
Mais alors, ça pose un gros problème, la question de la loi de 70, et c'est un problème qui est posé aux juristes, mais au-delà du juriste, qui est posé même à la société et à la politique tout entière. Au nom de quoi on peut interdire un comportement qui ne fait pas de victime directe? C'est-à-dire qu'on voit très bien, surtout à l'heure de la montée en puissance des victimes et de la violence, et on voit très bien la justification d'une loi qui interdit une emprise sur autrui, une emprise comme le harcèlement ou plus physique, plus violente. D'accord. Mais là, pour la drogue, on est devant un phénomène qui occupe considérablement les forces de police, qui consomme beaucoup du budget de la nation, mais finalement, pourquoi, au nom de quoi, intervient-on dans la vie du rapport de soi à soi, on pourrait dire, en quelque sorte?
Tout simplement au nom de la morale. Et donc c'est ça qui
mais
pose
une
problème.
Contestée.
Ah oui, d'une morale. Non mais du
qui était en difficulté aujourd'hui.
D'une morale, mais au sens négatif du terme, c'est-à-dire pas d'une morale avec un grand M, c'est-à-dire d'une morale, d'une vision moraliste, c'est-à-dire que
c'est pas bien.
C'est pas
bien.
Bien
et mal.
Voilà, c'est bien et mal. C'est-à-dire que la vision qui est prégnante aujourd'hui des drogues dans le champ des politiques publiques et qui est régie en fait par l'ensemble des partis de gouvernement aujourd'hui, c'est une politique donc répressive qui va distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est bien, c'est de pouvoir consommer des drogues dites légales, comme par exemple de l'alcool ou du tabac. Mais ce qui est mal, par contre, c'est de consommer des drogues dites illégales, comme du cannabis, de l'héroïne ou de la cocaïne. Et donc, c'est au nom, effectivement, de cette morale liée à l'interdit légal que l'usage est réprimé en France. Mais là où je partage complètement votre avis, Antoine Garapon, c'est que vous avez raison de rappeler que c'est une loi d'exception. C'est-à-dire que c'est la seule population pour laquelle, le seul comportement pour laquelle on va être amené à criminaliser, voire à proposer l'incarcération simplement pour un comportement qui ne nuit qu'à la personne.
Alors, on va même compliquer un peu le débat, parce que c'est, je crois que c'est ce niveau qu'il faut le porter, c'est-à-dire que non seulement on intervient au nom de la morale, mais que si on propose à l'intéressé un autre produit, si c'est médicalisé, ça devient acceptable. C'est-à-dire que là, on est quand même dans un summum, qu'on se rapproche d'un paradoxe extrême,
Marie-Jean-Claude Boursine. C'est toutes les tensions de la médicalisation actuelle de la question des addictions. C'est-à-dire que sur la question de la répression, de l'usage de drogue, on est sur le surveiller et punir. Et avec l'accroissement de la réponse médicamenteuse, on est sur le surveiller et guérir d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour chaque produit, on tente d'apporter une réponse qui est une réponse médicamenteuse. Donc pour l'alcool, le baclofène, pour l'héroïne, la méthadone ou la buprénorphine, Subutex. Le Subutex, pour la cigarette, la e-cigarette. Et donc à chaque fois, on propose soit une innovation technologique, soit, et la plupart du temps, une réponse médicamenteuse pour répondre à un problème qui est avant tout, qui n'est pas toujours un problème, puisque comme on vient de l'évoquer, les drogues ne sont pas toujours un problème.
Qui est peut-être parfois une phase initiatique, qui est normale dans la vie d'un homme, dans la constitution d'un petit homme.
Qui peut faire partie, comme vous le dites, des rites de passage, qui peut donner lieu également à des usages régulés, comme on l'a évoqué.
Qui peut faire société.
Qui peut faire société.
Pour les jeunes.
Qui peut faire société collective pour les jeunes. Qui peut faire partie des rites de convivialité, hein, on l'accepte tout à fait pour l'alcool, et ça peut être le cas également avec d'autres drogues. Et donc, cette augmentation de la réponse médicamenteuse dans nos sociétés actuelles, elle entraîne également une sorte de brouillage des frontières entre le licite et l'illicite. On évoquait tout à l'heure la question des morts aux États-Unis, des centaines de milliers de morts aux États-Unis. Et ce qu'on peut dire, c'est que la drogue soit licite ou que la drogue soit illicite, l'expérience de l'assuétude dont on vient de parler, elle transcende les appartenances sociales et les types de produits. C'est-à-dire que la personne qui va être addict à un médicament et qui va expérimenter cette assuétude avec le médicament, elle va ressentir le même manque et la même souffrance que la personne qui sera accro à l'héroïne ou à la cocaïne. La grande différence, en revanche, c'est que la personne qui va être dépendante à un médicament ne sera pas l'objet de la même stigmatisation sociale que la personne qui sera...
Ça transcende les classes sociales et en même temps, ça révèle l'injustice, une injustice devant laquelle la loi est impuissante, qui est en fait l'injustice des stigmas sociaux, des dominés, des dominants, pour prendre une très très grosse catégorie. Mais vous citez dans un de vos articles, Marie-Geoffrey Roustide, un propos de Claude Olivenstein. Alors ça dira peut-être plus grand-chose, ce nom, à un certain nombre d'auditeurs, mais vous rappelez cette phrase, c'était quand même un grand monsieur de ce champ sur les drogues, et il dit « La politique de la réduction des risques ne pose jamais la question du sujet, de son droit à la déviance, de son droit à la marginalité et au risque de vous choquer, de son droit à la mort.
» Alors, cette phrase, elle est intéressante, vous avez raison de la citer, Antoine Garapon, parce que en fait, elle remet en contexte toute l'histoire de la prise en charge de la toxicomanie en France. Oui. Alors, il faut rappeler que dans les années 70, avant la mise en place, de la loi du 31 décembre 1970, les usagers de drogue, qui avaient des problèmes de drogue et qui étaient dans des situations de toxicomanie, étaient dans les hôpitaux psychiatriques. Et rien ne leur était proposé comme dispositif de prise en charge.
L'enfermement.
Le grand mérite, quand même, de Claude Olivenstein, c'est d'avoir...
La clinique Marmottan.
Voilà, inventé à travers Marmottan un modèle français de la prise en charge de la toxicomanie qui était basée sur le sevrage et la psychothérapie, mais qui n'était pas médicalisée. Et donc, une des grandes peurs de Claude Olivenstein à l'époque, c'était de se dire que si on proposait des traitements de substitution, comme c'était déjà le cas par exemple au Royaume-Uni, on allait transformer, je reprends ces termes, les usagers de drogue en drogués médico-légaux. Et donc, en fait, ce qu'on retrouve à travers cette expression, c'est aussi tout le socle intellectuel sur sur lequel s'est créée cette prise en charge des usagers de drogue, qui est incarnée par Olivier Weinstein, qui était l'idée de Michel Foucault, de l'institution totalitaire, oui. Voilà, et du contrôle social.
Aujourd'hui, on n'est plus à l'heure de Michel Foucault, bien en dépit de la grandeur de son œuvre, c'est pas du tout ce que je veux dire, ou de Claude Lévi-Strauss, mais on est dans une autre perspective qu'avait d'ailleurs pressenti Foucault, qui est celle du néolibéralisme. Qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme ? C'est le fait de faire prendre le relais par l'intérieur des sujets, par leur intériorisation ou leur internalisation de la norme sociale, de se faire les relais du management et, en l'occurrence, de la santé, de la perspective de la santé. Parce que, à vous lire, on a l'impression que devant l'échec de la politique répressive, que malheureusement, à laquelle malheureusement la France reste très très attachée, eh bien le relais, c'est le médecin. Et plus que le médecin, c'est le contrôle, c'est la maîtrise. Maîtrisez votre consommation, régulez vous-même. Le mot réguler est très très significatif d'ailleurs de cet univers sémantique du néolibéralisme. Devenez les régulateurs de vous-même. Devenez les régulateurs de ce qui circule, on pourrait dire, en vous. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même aussi une image voir un spectre de notre société.
Si, tout à fait. Ce que vous venez de décrire, c'est ce qu'on appelle également la politique de réduction des risques. Oui. Et donc la politique de réduction des risques...
C'est la même politique que les capacités que vous mentionnez également. L'empowerment, c'est tout ça, la nouvelle tendance de réforme de l'individu.
Alors, cette nouvelle tendance de réforme de l'individu, elle a eu un certain nombre de mérites hein, dans le champ des drogues, puisque la politique de réduction des risques qui est le nouveau paradigme qui régit la prise en charge de l'usage de drogue en France, elle s'est mise en place pour répondre à une urgence dans les années 80, qui était le sida et bien la sûr, contamination bien sûr, massive bien sûr. Des usagers de drogue par le sida. Il faut quand même rappeler que un des grands échecs de la prohibition, c'est de considérer que à partir du moment où on interdit l'usage, on considère que l'interdit va être dissuasif et donc que simplement en interdisant l'usage, on va le faire baisser. Ça n'a pas marché. On l'a vu dans tous les pays qui ont mis en place des politiques répressives, l'usage ne diminue pas. Et à l'inverse, dans les pays qui ont mis en place des politiques plus tolérantes, l'usage n'augmente pas. Mais pour revenir à la politique de réduction des risques, ce qui est intéressant dans cette idée, c'est que elle a considérer qu'il était possible de mettre, par exemple, les seringues en vente libre, alors qu'elles étaient interdites hein, dans les années 80 en France.
Ce qu'on a fait en 96.
Voilà, ce qu'on a fait en 87.
87.
96, c'est les traitements de substitution aux opiacés.
C'est ça.
Et donc, en fait...
Et ça a marché.
Ça a marché très bien. La politique de réduction des risques a été extrêmement efficace sur la diminution du VIH et de l'épidémie de sida chez les usagers de drogue, parce qu'elle a fait l'hypothèse que les usagers de drogue seraient capables de prendre en charge leur santé et donc ils seraient capables d'utiliser des seringues propres si on leur mettait à disposition ces seringues. Et donc de s'appuyer sur ce que vous appelez...
Et de se comporter comme des acteurs rationnels.
Donc ça, c'est le versant positif du néolibéralisme et de l'approche par les capacités. Donc la politique de réduction des risques a été un franc succès. La seule limite de cette politique, c'est quand justement elle s'inscrit dans un contexte qui est le contexte d'une politique répressive. Puisque si on fait porter la responsabilité de son comportement uniquement à l'individu, dans certaines situations, les plus vulnérables sont exclus de ces bénéfices. Et là, je pense qu'on est aujourd'hui à une étape des politiques des drogues où nous devons aller plus loin et il est très important de s'appuyer sur les ressources des individus et de les considérer comme des êtres rationnels et capables de se protéger. Mais il faut aussi que l'État puisse protéger les plus vulnérables en s'intéressant, par exemple, à l'environnement du risque, au contexte de consommation. Et c'est les raisons pour lesquelles les salles de consommation dont on a parlé tout à l'heure sont intéressantes, parce qu'elles vont permettre de mettre à l'abri et de limiter l'impact que peut avoir la répression, par exemple, sur l'exposition au risque dans la rue, en consommant par terre, comme on l'a évoqué tout à l'heure.
Parce que je crois qu'il y a deux obstacles à continuer notre politique actuelle, et je le tire de la lecture de vos articles. premier obstacle, c'est qu'effectivement, sous prétexte d'une égalité devant la loi est la même pour tous, en réalité, on accuse les différences sociales. C'est qu'en réalité, les consommateurs qui ont l'environnement social, affectif, culturel, intellectuel, pour maîtriser le produit, le feront plus rapidement que les autres, et ils en porteront moins de stigmates, alors que ça ne sera pas le cas des jeunes de banlieue défavorisés qui ont des handicaps sociaux, qui vont être exacerbés, exaspérés en quelque sorte par le produit. Ça, c'est un premier obstacle. Mais le deuxième obstacle, et ça, c'est le juriste ou le juge qui parle, c'est qu'il y a un très grand risque, me semble-t-il, à maintenir des interdits qu'on n'est pas capable de faire respecter. Et là, c'est vraiment la situation française. Il y a énormément de consommateurs, vous pouvez rappeler peut-être quelques chiffres.
La moitié, à l'âge de 17 ans, plus de la moitié des usagers, enfin des jeunes, ont déjà consommé du cannabis, et ils sont un quart, enfin 24, enfin 25% d'entre eux, sont dans un usage problématique. Donc en fait...
Voilà. Et donc la loi ne va en prendre que quelques pourcents, qu'une poignée de pourcents, ce qui dévalorise l'instrument législatif, ce qui dévalorise le statut symbolique de la loi.
Alors, les chiffres que vous venez de citer et les tendances que vous évoquez, Antoine Garapon, elles symbolisent l'échec de la politique prohibitionniste. Mais ce qui me semble important de rappeler, c'est ce que vous venez de dire sur la question sociale et la question des inégalités sociales. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe aux États-Unis qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que... Une des hypothèses qui permet d'expliquer le fait que les États-Unis acceptent, pour une fois, d'être dans une optique de santé publique pour répondre à cette question des l'épidémie d'opioïdes, c'est parce ces opioïdes sont consommés par des jeunes insérés, issus des classes moyennes
et
blanches aux États-Unis.
Ça, voilà, oui.
Alors que quand
c'est
on
terrible.
Est sur un consommateur de crack noir, là, la réponse est systématiquement la répression. Autre élément qui est important sur la question des inégalités sociales, c'est qu'on vient de parler des jeunes. Et effectivement, l'usage de cannabis se diffuse chez les jeunes. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on regarde, par exemple sur Paris, l'expérimentation de cannabis chez les jeunes est beaucoup plus élevée dans les 16e, 17e, 15e arrondissements.
Ah oui, donc
et ça, c'est une idée, à la fin, ça va complètement à l'encontre des idées reçues. En revanche, quand on s'intéresse à l'usage problématique, là, l'usage problématique est plus élevé chez les jeunes issus de milieux défavorisés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne vont pas avoir les supports sociaux,
les ressources
qui vont leur permettre d'aller frapper à la porte du bon médecin ou d'être pris en charge pour pouvoir se situer dans des usages qui sont plus régulés.
Alors, Marie Geoffrey Roustide, on approche de la fin de cette émission. Quelle perspective ? On ne va pas laisser les auditeurs comme ça sur de tels constats, qui sont très intéressants, mais qui peuvent être désespérants sur cette persistance et même cette repénalisation à laquelle on assiste en France aujourd'hui. Non seulement ça ne faiblit pas, mais on assiste à un regain de pénalisation, même si ça ne se termine pas par de la prison. Alors, des perspectives d'espoir pour l'avenir. Comment est-ce qu'il dans quelle direction faudrait se diriger ?
Alors, la première direction, c'est la décriminalisation de l'usage.
Dépénalisation.
La dépénalisation de l'usage, d'accord. Comme le Portugal est en train de le tenter actuellement, ça semble être une perspective importante, puisque je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la place des usagers de drogue n'est pas en prison. Et puis, on vient de le voir, à travers notre discussion, l'échec de la prohibition est patent en France, mais à l'étranger également. Ce qu'on peut voir également, on l'a pas évoqué, mais à travers l'échec de la prohibition, c'est que la prohibition, elle a un effet ballon, comme l'évoque Daniel Werb, c'est-à-dire qu'elle tend à augmenter, à augmenter le trafic, à donner lieu à des stratégies des trafiquants pour proposer des produits qui sont de plus en plus dangereux.
Une expertise de l'illégalité, etc.
Voilà. Oui, donc en fait, pour moi, la première chose, c'est qu'il est important de décriminaliser l'usage. Alors, vous pourriez me dire, et la légalisation. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de la question de la légalisation du cannabis. Je pense qu'il faut être prudent autour de cette question, parce que le problème de la légalisation du cannabis, c'est que dans ce cas-là, on ne s'attaque qu'à un produit. Alors que ce qui est important, c'est de s'intéresser à l'usage des drogues, c'est-à-dire le cannabis. On s'y intéresse aussi parce que il concerne les classes moyennes, les classes bourgeoises, en termes d'usage régulé.
Bien sûr. Mais il y a tous les autres produits.
Il y a tous les autres produits. Et il y a tous ces nouveaux produits. Il y a l'héroïne, il y a la cocaïne. Et en fait, il est important d'avoir une politique des drogues qui prenne en charge l'ensemble de ces produits. Et l'autre élément qui nous semble moi qui me semble extrêmement important pour l'avenir, c'est d'avoir, de s'appuyer sur les normes sociales, de s'appuyer sur, d'avoir des politiques qui s'appuient sur l'expérience des usagers, sur les savoirs et qui ne soient pas réglementées par l'interdit qui, lui, ne fonctionne pas bien.
Essayer de changer les mœurs. Merci beaucoup, Marie Geoffrey Roustide.
Merci à vous, Antoine Garapon.
Les discussions du soir, Marie Geoffrey Roustide, Corinne Amar, Julien Nouminck. Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon.